Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Droit de Cité, 95.5 FM. Nous sommes ensemble pour la quatrième et dernière partie de cette émission Voyage à travers les étoiles. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'homme retournera-t-il sur la Lune et ira-t-il sur Mars. Pour en parler, donc, je reçois M. Roger Ferlet, président de la Société astronomique de France. Bonjour.
Bonjour.
M. Philippe Zarca de l'Observatoire de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Et puis M. Philippe Bordier.
Bonjour.
Bonjour. M. Bernard Nomblot, directeur du Parc aux Étoiles à Trier-sur-Seine. Bonjour. Alors, avant de commencer de parler donc, de l'homme va-t-il retourner sur la Lune, on va écouter tout de suite l'interview de Pierre Mazalret, qui est président d'un club d'astronomie à Vernon. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît.
Je m'appelle Pierre Mazalret, je suis président du club de Vernon d'astronomie. Je fais partie du club depuis plus de 15 ans et le club lui-même a déjà 20 ans.
Présentez-nous un peu votre club.
Eh bien, c'est un club qui regroupe à peu près une quinzaine de personnes, qui se renouvelle périodiquement, mais qui est relativement stable d'une année à l'autre, depuis 20 ans. C'est un club qui possède un observatoire, qui a l'avantage d'être dans un site qui n'a pas trop de pollution lumineuse, tout au moins par rapport à la région, ce qui fait que l'observation des galaxies est quelque chose qui est facile chez nous, tout au moins quand la météo s'y prête, bien entendu.
Le 20 juillet 1969, on a vu les premiers hommes marcher sur la Lune. D'après vous, en tant qu'astronome, est-ce que vous avez l'intime conviction que l'homme retournera sur la Lune ?
C'est difficile à dire, hein. On peut le penser bien sûr. Je me souviens encore de la nuit blanche que j'ai passée pour suivre le premier débarquement sur la Lune. C'est un événement qui a certainement eu une portée considérable, qu'il a eu pour moi et je pense pour beaucoup de monde. Je pense que la conquête planétaire c'est bien, je pense que la campagne Apollo pour la Lune ça a été quelque chose de formidable, mais c'est quelque chose qui a été sans lendemain, qui pourtant avait mis en œuvre une énergie considérable, des moyens considérables.
On voit maintenant que les techniques au niveau spatial évoluent énormément. Pensez-vous que dans le siècle prochain on verra l'homme sur Mars ?
C'est difficile de donner une date, on peut, a priori bien sûr, on peut le penser, mais c'est quand même un enjeu technique gigantesque qui nécessite de mobiliser des moyens considérables, de mobiliser une énergie considérable qu'on va pouvoir probablement mettre en jeu qu'au niveau international. Je crois bien qu'un jour on arrivera sur Mars, il n'y a pas de raison, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je souhaite bien sûr qu'on déploie aussi l'énergie qu'il faut, les moyens qu'il faut pour la conquête de Mars ou pour retourner sur la Lune, pourquoi pas. Mais bon, je crois qu'il faut savoir prendre son temps. Et puis, bon, je pense que l'humanité aussi, elle n'a pas aussi qu'à regarder la tête dans les étoiles. Et que, bon, il faut aussi voir que les gens puissent vivre sur Terre peut-être mieux. Et tout compte fait, il y a des choix à faire. Conquérir Mars, c'est bien, je le souhaite même. Mais d'un autre côté, je sais aussi qu'il y a des milliards de gens qui sont dans la misère sur Terre. Et que, bon, il y a peut-être aussi quelque chose à faire, là.
Voilà, donc... interview de M. Pierre Mazalret, président du club d'astronomie de Vernon. Alors, est-ce qu'il y en a justement qui veulent réagir par rapport à ce que M. Mazalret a dit, M. Ferlet ?
Moi, je peux juste répéter ce que un grand savant russe disait au début du siècle, hein, Tsiolkovsky. La Terre, c'est le berceau de l'humanité et on n'est pas fait pour rester dans son berceau. Donc, aller explorer, a priori, c'est pas contre nature.
M. Zarka ?
Moi, j'aimerais bien dire que, en tant qu'astronome professionnel, quoi, disons, je trouve qu'il y a des choses très très intéressantes à faire sur la Lune, et notamment sur la face cachée de la Lune. La face cachée de la Lune, parce qu'elle est à l'abri, bon, évidemment, de toute pollution, que ce soit lumineuse, et surtout toute pollution électromagnétique, par exemple radio, constitue un lieu absolument rêvé pour mettre des observatoires astronomiques, et notamment pour faire de la radioastronomie. Parce que la Lune coupe tous les parasites, la Lune n'a pas d'atmosphère quasiment, donc on peut vraiment observer le ciel comme on ne le verra jamais de la Terre.
Alors justement, une question que je voudrais poser, c'est qu'on a vu avec les missions Apollo, des hommes aller sur la Lune, ça a commencé donc le 20 juillet 1969, et les derniers c'était le 13 décembre 1972, et pourquoi n'allons-nous plus sur la Lune maintenant ?
Moi je pourrais dire... Enfin, ce que j'en pense, mais c'est probablement assez commun. Vous savez qu'il y a, aux États-Unis, j'ai entendu dire qu'il y a des associations de gens qui prétendent qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Alors bon, c'est rigolo, et évidemment, ils ont tort, mais c'est quand même assez symptomatique. Pourquoi ils disent ça, à mon avis ? C'est parce qu'on n'est pas sûr qu'on pourrait aujourd'hui rééditer facilement l'exploit. Et en fait, le problème, c'est que ça repose à la fois sur une volonté politique, qui maintenant est nécessairement international, et puis sur un coût, sur des crédits qui sont tellement monstrueux qu'évidemment, cette décision ne peut se prendre que dans un contexte à la fois international et puis de croissance volontaire, quoi, disons. Il faut vouloir faire cet effort-là. Bon, alors, est-ce qu'on veut le faire? Est-ce qu'il y a d'autres priorités, etc.?
Et si on décidait d'y retourner, on a vu quand même dans les années 60 qu'entre le temps où, je crois que c'est Kennedy l'a dit, et où l'homme a posé le pied sur la Lune, ça a été relativement assez rapidement. Si aujourd'hui on décidait d'y retourner, combien de temps faudrait-il à peu près?
La réponse n'est pas évidente, effectivement, mais enfin, je pense que là, de ce point de vue-là, au point de vue technologique, je pense que vous faites allusion à la construction d'une fusée, à la construction de moteurs, etc. Je pense que la technologie est disponible pour si on voulait retourner sur la Lune, et je crois qu'on en a les possibilités techniques. Et ça ne devrait pas poser tellement de problèmes, et un délai de peut-être de l'ordre, si on décidait aujourd'hui, un délai de d'une dizaine d'années pourrait peut-être être réaliste. Mais là encore, je rejoins ce que nous disait notre collègue tout à l'heure, c'est une question de volonté, c'est une question de décision, c'est une question de programme, d'ensemble. Il y a des choix à faire. On a dit encore, il y a des priorités aujourd'hui, ben il faut décider, il y a une question de volonté.
Monsieur Nomblot, vous vouliez peut-être réagir par rapport à ce sujet?
Oui, mais je pense qu'il faudrait effectivement au bas mot une dizaine d'années, mais surtout la question c'est pourquoi faire? S'il s'agit de retourner sur la Lune comme on l'a fait dans le cadre du programme Apollo pour envoyer deux hommes pendant trois jours, ça ne se justifie peut-être pas. Il est clair, à mon sens, que si on devait monter un programme pour aller sur la Lune de nouveau, il s'agirait là d'y faire du neuf, c'est-à-dire essentiellement de s'y installer, ou tout au moins d'y installer une base qui serait visitable. Peut-être l'équivalent de la station internationale, la station spatiale internationale en orbite lunaire serait peut-être moins bête qu'en orbite terrestre. En toute proportion gardée, on pourrait imaginer quelque chose de plus petit, de plus qui soit visité régulièrement pour servir de point avant de descendre vers la base lunaire. Parce que si c'est pour effectivement aller ramasser du caillou dans trois endroits différents, c'est pas tellement la peine. Ça a déjà été fait. Sur les 400 kilos de roches lunaires, il doit en rester à peu près 350 kilos qui n'ont pas encore été analysés. Ça ne se justifie pas. Ce qui justifierait d'aller sur la Lune, c'est pour s'y installer, à mon sens, et effectivement, vous le disiez, soit sur la face cachée, soit en limite de face cachée, parce qu'il est probable que la vue de la Terre soit nécessaire aux astronautes ou aux cosmonautes qui seront sur place, tout au moins comme un lien affectif, mais avoir un observatoire juste de l'autre côté serait effectivement très intéressant. Donc on pourrait tout à fait imaginer de se situer à la limite entre la face visible et la face cachée de la Lune.
Voilà, la première visite quand même de la Lune a eu quand même certains intérêts scientifiques. Bon, les analyses des échantillons rapportées au moins de l'avis de notre ex-ministre, ont été utiles pour apprendre des choses sur l'origine de notre satellite. Puis bon, on a quand même placé des réflecteurs sur la Lune pour faire des tirs laser qui permettent de mesurer très très précisément la distance de notre satellite. Je crois qu'effectivement, comme on vient de le dire, ce qui est important si on y retourne, c'est d'y retourner dans une optique de suivi, en fait, d'avoir un projet réellement à long terme, et pas de nouveau de faire un coup d'éclat. Si c'est pour planter un deuxième drapeau, non.
Avant de clôturer ce sujet sur la Lune, monsieur Bordier.
Je voulais simplement dire, on a parlé effectivement d'installer une base d'astronomie sur la face cachée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Moi, j'en avais relevé deux. C'est évidemment à partir des matériaux que l'on a analysés, on sait qu'il y a des possibilités peut-être d'extraire des matériaux, donc de faire de trouver là une source de matériaux. Bon, alors, c'est peut-être encore que de l'ordre de l'idée, mais c'est peut-être à creuser, sans jeu de mots. Et puis, l'autre idée qui a été effectivement évaluée ou imaginée, bien que ça pose des problèmes aussi, mais enfin, l'autre idée, c'est une base de départ pour d'autres planètes, pour visiter d'autres planètes. Donc, astronomie, peut-être recherche de ressources, minéralogique, minière et base de départ pour d'autres explorations.
Très bien. On clôture donc ce sujet sur la Lune. On va faire une pause musicale et puis juste après, on se retrouvera pour parler de l'homme ira-t-il sur la planète Mars. On se retrouve pour cette dernière partie de cette émission Voyage à travers les étoiles, toujours ici à la salle de conférence du Parc aux étoiles à Triel. Et donc on va parler de l'homme ira-t-il sur Mars, une grande question. Est-ce qu'on verra l'homme marcher sur la planète Mars ?
Un jour sûrement, mais quand, je ne m'hasarderai pas à donner une date.
Et si toutefois il y allait, en fait, ce serait pour quoi faire, juste ? Est-ce que c'est pour faire, comme on disait tout à l'heure, avant la pause musicale, un coup d'éclat ? J'ai planté le drapeau sur la planète Mars, voilà, ou est-ce que...
Ben, il faut espérer que non. Encore une fois, c'est très coûteux. Bon, c'est très, très différent d'aller sur la Lune et d'aller sur Mars, et notamment d'y envoyer des hommes. Enfin, la question, c'est est-ce qu'il faut envoyer un homme sur Mars ? Aller sur la Lune, ça prend quelques heures, quelques jours au total pour le voyage. Donc, il n'y a pas vraiment de problèmes insolubles, comme l'ont montré les missions Apollo, je veux dire, pour faire subsister des hommes pendant la durée du voyage, quoi, aller-retour. Aller sur Mars, c'est quand même une autre affaire, dans la mesure où il faut que des hommes qui iraient là-bas vivent pendant plusieurs années pour le voyage aller-retour, parce qu'il faut leur promettre leur tour, sinon ils n'iront pas, probablement. Et donc, c'est extrêmement compliqué, et on peut se demander, évidemment, si un programme d'exploration, disons, intensif de Mars par des engins automatiques ne serait pas plus sensé d'abord. Alors après, on peut se poser la question, pourquoi Mars spécialement ? Enfin, il faut choisir bien sa cible. C'est clair que Mars, avec la présence possible d'eau dans le sous-sol, enfin probable d'eau dans le sous-sol, une atmosphère mince, une distance qui n'est pas trop grande, etc., a beaucoup, beaucoup de points séduisants, disons, pour l'étude scientifique. Mais bon, l'homme, il faut vraiment bien réfléchir avant d'envoyer des hommes là-bas, quoi.
Si on envoyait des hommes, donc, ce serait pour combien de temps et avec qui ?
Quelle durée Alors, qu'est-ce qu'on considère aujourd'hui pour sur un voyage sur Mars ? On pense aujourd'hui que le voyage aller pourrait durer de, disons, entre 6 et 9 mois pour aller. Rester là-bas, alors on parle de voyage de durée courte, de quelques mois, je dirais, ou de quelques, voire de quelques semaines, pour reprendre le train tout de suite, de retour, soit carrément de rester là-bas de l'ordre de un an et demi, quelque chose comme ça, pour retrouver tout cela, pour retrouver des conditions de distance entre Terre et Mars favorables, et donc d'envisager un retour qui durerait aussi de l'ordre de 6 à 9 mois. Mmh. Voilà en gros ce qui se prévoit. Quant à la date, donc, quand cela peut-il se faire ? Alors, on se retrouve un peu dans la situation où il y a des optimistes et les pessimistes, ou les réalistes et les irréalistes. Certains parlent déjà de 2015. Moi, ça me paraît déjà très tôt. Moi, j'aurais plutôt dit peut-être au-delà de 2020. Alors, on va dire entre les deux, il n'y a peut-être pas beaucoup d'écart. Mais ça, à mon avis, je dis bien l'homme, hein, l'homme sur Mars, pas certainement pas avant, à mon avis, une vingtaine d'années. Et d'ici là, je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure, il faut passer par une phase d'exploration avec des robots. Et c'est ce qui a été commencé. Alors certes, certains avec réussite, d'autres avec beaucoup moins de réussite, malheureusement, je pourrais dire. Mais il est prévu un certain nombre d'opérations, je crois d'ores et déjà, d'envoyer des nouveaux robots là, sur Mars. Il y a une opération qui est en réflexion, c'est une récupération d'échantillons qui devrait se faire là aussi à échéance, je crois, dans les cinq ans à venir, 5-6 ans. Je crois me souvenir qu'on parle de retour effectif d'échantillons vers 2008. Donc c'est quand même pas tout de suite, mais ça se prépare. Donc un certain nombre de missions d'exploration à base de robots. Alors, l'homme est-il nécessaire ? Ça rejoint toujours cette éternelle question. On pense beaucoup que l'homme et le robot sont complémentaires. L'homme ne peut faire évidemment beaucoup plus de choses qu'un robot. Et à un moment donné, on pense que l'homme sera quand même nécessaire. Et puis après, il y a toute cette réflexion aussi sur le futur, au-delà. La présence de l'homme sur Mars de façon, alors une station spatiale sur Mars, donc au-delà, et puis encore au-delà, On parle même de, mais je m'étendrai pas trop longtemps, on parle même de réfléchir aux moyens de rendre la planète habitable. Mmh. Alors ça, c'est évidemment à beaucoup plus longue échéance, mais ça fait partie des réflexions. C'est effectivement un sujet passionnant. Mars est une planète relativement, je dis bien relativement habitable. Il n'y a pas beaucoup de pression, mais les températures sont, je dirais, assez vivables, bien qu'il faille vraisemblablement envisager des habitations enterrées pour protéger de radiations, voire de météorites ou de choses comme ça. Enfin, il y a plein d'idées. C'est un sujet effectivement passionnant. Je fais partie d'une association qui s'appelle Planète Mars et qui se charge un peu de promouvoir un peu ces idées. Mais il y a certainement des choses intéressantes et il y a beaucoup de choses à découvrir, certainement, et qui nous permettra de comprendre également beaucoup de choses. Comprendre le fonctionnement, comprendre Mars, permet de comprendre, la Terre, à la limite. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. La Terre et Mars sont des planètes qui ont été très, très, très voisines à une certaine époque.
Monsieur Namblot, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose ?
Je pense simplement que ça risque de prendre un temps bienheureux. Et surtout, moi, ça me fait songer que quand des hommes se sont posés sur la Lune, j'avais 13 ans pour la première fois quand des hommes sont allés sur la Lune. Et j'ai dit à mes parents, je serai le premier homme à aller sur Mars. Et très franchement, en 1970, on prévoyait le débarquement sur Mars pour 81 ou 86. Nous sommes maintenant au début 2000. Manifestement, mes chances d'être le premier homme sur Mars s'amenuisent petit à petit. Et peut-être qu'effectivement, ça se fera en 2020, 2025, mais certainement sans moi. Ça, je le regrette, mais ça n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que le fait d'aller sur Mars, eh bien, ça fait toujours autant fantasmer, mais on met au bout du compte fort peu d'argent là-dedans, et il faut quand même savoir que ça coûtera quelque chose de phénoménal. Le débarquement lunaire n'était pas grand-chose au regard de ce que coûtera le débarquement de l'homme sur Mars.
Je crois, oui. Monsieur Zarka, vous voulez...
Oui, moi je voulais faire une remarque qui est beaucoup plus proche de nous, en quelque sorte. Bon, on peut certainement trouver de très bonnes raisons pour aller sur Mars, et même pour y envoyer des hommes. Bon, il faudrait se préoccuper des raisons scientifiques, donc d'envoyer des missions automatiques, puis des hommes, puis il y a certainement d'autres raisons, des raisons d'aventure, d'exploration, des raisons à très long terme. Mais le problème qu'on pourrait poser, c'est le mode de prise de décision, en fait, de ces choses-là. Qu'est-ce qu'on a vu récemment ? On a vu que, d'une part, les instances dirigeantes de la NASA ont voulu pousser à toute force la méthode « plus vite, plus loin, moins cher », ne s'est pas vraiment illustré par ses succès. En fait, il y a eu un succès, bon, et puis il y a eu beaucoup d'échecs. Bon, de notre côté, en France, on a eu un ministre qui a été convaincu du besoin de l'exploration de Mars et qui a mis beaucoup de force dessus. Peut-être qu'une consultation, disons, plus large et puis plus profonde de la communauté scientifique pour les questions scientifiques, puis des autres communautés pour les autres questions, permettrait de mieux définir, en fait, les buts et puis mieux définir les forces à mettre dedans. C'est-à-dire que je ne pense pas, effectivement, vu l'énormité du projet, que ça peut être comme ça une envie d'un seul homme, et puis des projets un petit peu comme ça, poussés à la force du poignet. Il faut que ça se décide collectivement, et puis clairement connaître les enjeux et les objectifs.
Il y a peut-être aussi quelque chose, parce que M. Bordier disait tout à l'heure de rendre la planète habitable, mais si tel était le cas, il faudrait peut-être mettre des règles draconiennes, parce que l'homme aujourd'hui pollue la planète Terre. Il faudrait faire en sorte qu'on conserve Mars et qu'on ne salope pas la planète comme on l'a fait pour la planète Terre.
Dans ce cas-là, je crois que le plus simple, c'est de ne pas y aller, parce que je crains bien que ce soit un truisme, mais vivre, c'est polluer, et polluer, c'est vivre. Enfin, à partir du moment où on ira sur Mars, on va transformer la planète, et du point de vue du puriste, elle sera polluée. Pour la Lune, ce sera la même chose. Quand la vie s'est manifestée sur la Lune entre 69 et 72, la vie a pollué la Lune. Nous avons doublé la masse de l'atmosphère lunaire grâce au gaz qui fuyait des vaisseaux Apollo, bon, elle a été irrémédiablement polluée pour 30, 40 ou 50 ans. On ne peut plus étudier l'atmosphère de la Lune telle qu'elle était avant les missions Apollo. Bon, à partir du moment où on accepte l'idée, ou c'est pas, d'ailleurs, il ne s'agit pas d'accepter l'idée d'aller sur Mars, il s'agit de décider collectivement qu'il est indispensable ou impératif d'aller sur Mars, à ce moment-là, on accepte l'idée qu'on va polluer la planète Mars et lui enlever sa virginité originelle, si j'ose dire. Comment dirais-je ? Quand un alpiniste va faire un 8000 inexploré, il laisse à la fois ses traces de pieds et ses bouteilles d'oxygène. À partir du moment où on conquiert, on pollue et on modifie.
Mmh. Est-ce qu'il y en a qui voulaient réagir encore à le fait de l'homme sur Mars avant de clôturer l'émission ?
C'était pas le fait d'un homme sur Mars, c'était juste pour dire que la planète Mars, on peut la voir à l'œil nu, donc tout le monde peut la regarder, la planète rouge. Et en 2003, la position de Mars et de la Terre seront-elles sur leur orbite autour du Soleil que ce sera le moment, il y aura un moment où elle sera la plus près de la Terre. Et donc on pourra la voir encore mieux dans des petits instruments.
Donc le rendez-vous est pris pour 2003. Voilà, on va clôturer cette dernière partie d'émission et comme on le fait tout le temps dans ces émissions Voyage à travers les étoiles, on va faire un tour de table, chacun va dire le mot de la fin. On va commencer par M. Ferlet.
Bon, juste une chose, on pourrait dire que faire envoyer des hommes sur des planètes extérieures à la Terre, etc., ça coûte très cher et que c'est pas utile parce que, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a dit dans une interview... C'est pas utile parce que sur la Terre, il y a suffisamment de problèmes. Il vaudrait mieux dépenser de l'argent pour améliorer les conditions de vie sur Terre. Alors, juste pour dire que ce n'est pas vraiment une bonne réaction. À l'époque où n'existait pas l'électricité et qu'il y avait les bougies, on ne s'est pas dit un jour, bon, je veux améliorer la bougie et puis on a trouvé l'électricité. Pas du tout, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé parce qu'il y avait ce qu'on appelle la recherche fondamentale. Donc, à mon avis, c'est une fausse question de savoir si... Il faut continuer à faire de la recherche fondamentale parce qu'il n'y a pas à se dire c'est mieux de dépenser là que là, etc.
Monsieur Zarka ?
Moi, j'aurais tendance à dire l'astronomie, c'est certes un spectacle qui est très beau. Bon, regardez les planètes, les galaxies. Mais je crois aussi, bon, alors c'est mon biais de professionnel, hein, mais je crois aussi qu'il y a une autre fascination qui est au moins aussi importante, voire plus importante, c'est que l'astronomie, par le biais de la physique, permet d'essayer de comprendre un petit peu le monde qui nous entoure. Et ça, je trouve que quand on s'y frotte, eh ben, c'est encore plus beau que de contempler les planètes et les galaxies. Et je ne saurais trop encourager tous les auditeurs, astronomes amateurs et les autres, à essayer d'aller plus loin que la contemplation et essayer de comprendre un peu comment ça marche. Il y a des gens qui sont prêts à l'expliquer, il y a plein d'ouvrages et l'effort vaut le déplacement.
Je suis tout à fait votre idée. Monsieur Philippe Bordier.
Oui, j'ajouterais un petit peu dans cette idée-là, d'ailleurs pour prolonger un petit peu ce qui vient d'être dit, c'est que tout ce que l'on fait, toute cette observation, toutes ces conclusions ou ces interprétations que l'on cherche à faire, je crois aussi que ça a une utilité, c'est de comprendre, d'expliquer pour mieux prévoir et je crois aussi pour peut-être mieux gérer notre environnement, gérer notre planète à la limite. Et je crois que c'est un point important, à tel point je crois qu'un des programmes de l'Agence spatiale européenne, c'est la gestion planétaire, la gestion de notre planète, ça fait partie des priorités, je dirais, de l'agence. Et je crois que c'est un point important qu'il faut rappeler, qu'il faut dire aux gens qui se posent des questions sur, après tout, pourquoi fait-on un certain nombre de recherches, pourquoi envoie-t-on des satellites, etc. Il y a bien une idée de, finalement, comprendre notre environnement pour peut-être mieux le gérer.
Monsieur Bernard Nomblot ?
Oui, enfin moi c'est un souhait, enfin, comme des tas de gens qui apprécient le spectacle des étoiles, c'est pour moi de plus en plus difficile de voir les étoiles. Il y a à l'heure actuelle ce que certains astronomes appellent un peu abusivement la pollution lumineuse, je parlerai de nuisance, c'est déjà pas mal. On utilise énormément d'argent à éclairer le ventre des oiseaux, le ventre des avions également, le bas des nuages, c'est assez joli. Je veux dire simplement qu'il y a dans notre pays une politique d'éclairage urbain qui est faite en dépit du bon sens et qui est en train de nous couper d'un lien naturel, lien qu'on a depuis toujours avec la nuit. C'est quelque chose d'extrêmement regrettable. Bon, je suppose que des émissions comme la vôtre peuvent permettre de remédier à ce genre de choses. Le travail qu'on fait ici essaye aussi d'y contribuer. Et puis, je ne m'inquiète pas outre mesure quand même, parce que l'avantage, c'est que ce type de nuisance est totalement réversible. Il suffit d'éteindre l'interrupteur, de basculer l'interrupteur pour retrouver une nuit parfaitement noire. Mais je regrette quand même qu'à l'heure actuelle, on parle de plus en plus d'étoiles et qu'on en voit de moins en moins.
C'était le mot de la fin de M. Bernard Nemblot. Moi, je voudrais aussi remercier tous les intervenants qui étaient là pour les quatre émissions, donc M. Roger Ferlet, M. Philippe Zarca, M. Philippe Bordier. Je voudrais aussi remercier le Parc aux Étoiles, M. Nemblot, de nous avoir accueillis ici pour cette émission Voyage à travers les étoiles. Je voudrais remercier la direction de Radio Droite Cité pour avoir permis de faire cette émission. M. De Oliveira pour la technique, Jérémy Duhamel pour le montage des reportages et tous ceux que j'ai oubliés, pensez bien que je les remercie chaleureusement aussi s'ils ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette émission.